Radio Capi.
Oh, Capi. Le journal Pascal Masserica.
Les titres de l'actualité, 5 morts dont 3 soldats des FARDC et 2 Ouazalendo et plusieurs blessés graves. Bilan d'une altercation survenue ce week-end entre les FARDC et ses combattants Ouazalendo. C'était au quartier Lac Vert dans la commune de Goma au nord Kivu. Encore un incendie à Bukavu, chef-lieu du Sud Kivu. Le bâtiment qui abrite les bureaux des ministres provinciaux a pris feu dimanche soir. Les véhicules anti-incendie qui avaient été mis à la disposition des communes ne sont toujours pas opérationnels. Notre invité, c'est le député national Jacques Djoli. Ce professeur de droit constitutionnel revient sur les organes délibérants sous état de siège au Nord Kivu et en Ituri qui ne se sont toujours pas réunis après la publication des résultats des élections provinciales. Madame, messieurs, bonsoir. 5 morts, dont 2 combattants Ouazalendo et 3 soldats des FARDC, plusieurs blessés graves parmi les civils. Bilan provisoire des échauffourées survenues hier dimanche au quartier Lac Vert dans la commune de Goma au Nord Kivu. Les causes de ces incidents ne sont toujours pas élucidées. C'est ce que nous raconte Gabriel Ouamenia.
Le calme est revenu ce lundi matin dans le quartier Lac Vert après la bagarre qui a opposé les militaires des FARDC aux combattants Ouazalendo dans ce quartier situé au sud-ouest de la ville. C'est après la piscose qui a gagné les habitants de cette agglomération à laquelle s'y est ajouté les déplacés venus de Sake et environ qui croyaient déjà à une guerre s'est dissipée ce lundi matin. Les causes de ces bavures entre ces deux partenaires ne sont pas encore connues, s'inquiète ici chef de quartier Lac Vert. Dédé Si Mutimana dresse ici un bilan provisoire de ces incidents.
La situation est devenue inquiétante ici. À l'entrée ISTA, il y a pas mal de cas de morts. Cet après-midi, nous avons eu à identifier quand même 5 morts. Il y a 2 Ouazalendo. On ne connaît pas la cause de leur dispute.
Contacté sur les causes de ces bagarres récurrentes, le coordonnateur des opérations militaires au Nord Kivu répond, le lieutenant général Falsi Kabwe.
Il y a une ordonnance qui a mis en place une structure qui s'appelle la réserve armée pour la défense et qui a des responsables. Nous allons voir avec le gouverneur militaire qui patronne provisoirement la chose sur place pour trouver des solutions plus solides.
Goma, Gabriel Ouamenia, Radio Capi.
Nord Kivu, encore une accalmie s'observe ce lundi sur toutes les lignes de front dans les territoires de Masisi, Rutshuru et Nyiragongo. Des sources locales affirment à Radio Capi que sur le front sud, par exemple, dans le groupement de Kamuronza, chefferie de Baoundé, les rebelles du M23 sont concentrés autour de la colline de Bouzirangabou après avoir été chassés par les combattants Ouazalendo lors des affrontements survenus samedi. Ces rebelles du M23 se cacheraient derrière la colline de Rutogo, non loin de la cité de Sake qui reste vidée de ses habitants. Mambo Kawaya de la société civile note que la situation reste relativement calme. En Ituri, pendant 7 ans, l'administrateur du territoire de Djougou condamne fermement le massacre de 15 civils samedi à Tali par des miliciens de la Codeco. C'est confiant ce lundi à la presse. Ruffin Mapela redoute les représailles du groupe d'autodéfense locale dans les localités de Moussaba, Mabendi, Mbidjo, Mbogi et Café. Des actes qui compromettent, selon lui, les accords de paix qui avaient été signés l'année dernière à Arou. Il a été joint par Ezekiel Mouzalia.
Nous avions observé une accalmie totale dans l'ensemble du territoire de Djougou. Mais nous n'avons pas compris comment le cycle de violence a repris. Il y a eu des problèmes aux côtés du groupement Moussaba au niveau de Mbidjo, au niveau du village Mbogi où les autodéfenses et les groupes armés Codeco se sont s'affrontés pendant autant de jours. Il y a eu des problèmes qui s'est passé sur la route, hein, toujours sur cette route-là, au niveau du village Tali, où Codeco ont tué 15 personnes de CGMA. Nous regrettons parce que tout ce que nous sommes en train de fournir comme effort pour que la paix revienne dans ce territoire de Djougou, nous retournons toujours dans les cases de départ. Nous savons qu'il y a des mains noires qui continuent à faire de gauche à droite. Nous demandons seulement à la population, aux communautés-là, d'éviter les représailles. Parce que ce n'est pas ce moment-là de revenir encore dans les cycles de violence dans les territoires de Djougou.
Et puis, 196 déplacés venus de Malimbankulu et de Luena dans la province voisine du Olomami ont été installés hier dimanche après-midi par le gouvernement provincial du Kasaï oriental. La chef de division des actions humanitaires et solidarité nationale affirme à Radio Okapi que deux maisons ont été louées pour coordonner leur assistance humanitaire. Mbujimai, Esther Ndalafina.
10 jours après leur arrivée à Mbujimayi, ces déplacés venus de Malimbankulu et de Luena ont désormais une adresse temporaire. Depuis leur arrivée, ces déplacés passent nuit à la Belle Étoile dans un hangar construit pour les jeunes à la mairie où ils se sont installés eux-mêmes pour solliciter l'assistance. Ils sont au total 196, dont 42 femmes, 18 hommes et 96 enfants. Ceux venus de Malimbankulu ont pris des baleinières jusqu'à Bukama. Ces déplacés ont tous voyagé par train jusqu'à avant d'atteindre Mbujimayi par véhicule. Marthe Bajana, chef de division provinciale des actions humanitaires et solidarité nationale, affirme que l'autorité provinciale s'implique pour leur prise en charge.
Nous les avons logés à deux endroits différents depuis hier soir. Les hommes dans une maison et puis les femmes et les enfants dans une autre maison. L'autorité provinciale a décidé qu'après l'installation, elle va les prendre en charge. Le moment où je vous parle, je suis là où ils sont pour leur donner quand même quelque chose qu'il faut mettre sous leurs dents.
Marthe Bajana invite les hommes de bonne volonté à venir également en aide à ces déplacés internes. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
On en vient maintenant à l'actualité économique. Nous avons pu identifier et stopper les dépenses irrégulières de l'ordre d'1,5 milliard de dollars américains dans les établissements publics. Révélation faite aujourd'hui par le chef de service de l'IGF, l'Inspection Générale des Finances, alors qu'il était l'invité spécial de l'émission Okapi Service diffusée sur nos antennes ce lundi. Jules Alinguete annonce également un renforcement de la patrouille financière avec une plus grande fermeté en 2024. On l'écoute dans cet extrait proposé par Cynthia Bachizina Bizana.
Nos équipes travaillent sur les programmations des dépenses présentées par les établissements publics et dans ce cadre-là, nous avions pu extirper des dépenses irrégulières de l'ordre de plus d'1,5 milliard de dollars dont la trésorerie était disponible, ce qui signifie aujourd'hui que cette trésorerie existe dans ces établissements et qui peut être affecté à des usages beaucoup plus cohérents. Alors, quand nous parlons des dépenses irrégulières, il s'agit des dépenses qui ne respectent pas la procédure prévue par la loi. Il s'agit des dépenses de marché dont on n'a pas y a passé la procédure requise des passations de marché dans notre pays. Mmh. Il s'agit des avantages irréguliers qui ne sont pas autorisés. Il s'agit aussi des dépenses dont, dans la programmation, les pièces justificatives pour que la dépense soit effectuée n'étaient pas là. Donc tout ça, ça constitue des dépenses irrégulières que nos équipes ont pu enlever des programmations et ça fait des économies pour ces établissements.
À Bukavu, chef-lieu du Sud Kivu, des cas d'incendie des maisons sont devenus récurrents et inquiétants. Les véhicules anti-incendie qui avaient été mis à la disposition des communes ne sont toujours pas opérationnels. Dimanche soir, par exemple, le bâtiment qui abrite les bureaux des ministres provinciaux a pris feu dans la commune d'Ibanda. À Bukavu, Emmanuel Elmejo Kabidi.
Les cas d'incendie des maisons les plus récents sont enregistrés dimanche 18 février dans les communes urbaines de Kadutu et Ibanda. Des ménages entiers sont restés sans abri, tous les biens sont calcinés par le feu. La semaine dernière, une bonne partie du marché central de Kadutu est rendue en cendres par un feu d'origine inconnue. À Ibanda hier, c'est un bâtiment qui abrite les ministères provinciaux qui a pris feu venant de la parcelle voisine. Les ministères du genre et de la communication ont vu leurs meubles et autres objets de bureau calcinés.
Et les maisons qui avoisinent notre cabinet, ce sont ces maisons-là qui ont pris feu. Bon, on a commencé à appeler le maire, madame le bourgmestre. C'était trop tard vraiment. Le bâtiment ici abrite 3 commissariats. Il y a communication et presse. On Au rez-de-chaussée, il y a ma collègue Dijanre et au deuxième niveau, il y a le commissariat de l'environnement. Les machines ont été endommagées, scanners, les ordinateurs et les imprimantes.
avec ou sans camion anti-incendie, la question se pose si les maisons d'habitation et les bureaux divers sont dotés des extincteurs pour une intervention urgente. Emmanuel Elamejo Kabedi, Bukavu Radio Kapi.
Restons au Sud Kivu où il n'y a toujours pas de séance plénière à l'Assemblée provinciale. Les nouveaux députés provinciaux s'impatientent. La grève des agents administratifs persiste et les moyens logistiques attendus du gouverneur tardent à venir. Emmanuel Elmejo Kabedi.
La rentrée parlementaire prévue le 5 février dernier, comme partout ailleurs, n'a toujours pas eu lieu à l'Assemblée provinciale du Sud Kivu. Les 44 députés provinciaux nouvellement élus qui s'étaient présentés ont été repoussés par les agents administratifs en grève. La population dit toute son inquiétude et se demande s'il y aura élection des sénateurs et des gouverneurs de province au Sud Kivu avec les électeurs qui ne siègent pas.
Il est quand même anormal que déjà au niveau des 26 provinces, on puisse déjà procéder à l'installation des bureaux provisoires au niveau des assemblées provinciales. Maintenant, au niveau du Sud Kivu, c'est inscrit dans l'arme vraiment adressé au premier citoyen du pays qui est le garant du bon fonctionnement des institutions. On risque encore de connaître un retard. Nous voudrions que nos institutions, un nouvellement élu, des députés provinciaux qui sont là, les conseillers communaux qui sont là, ils doivent être installés. Et ça, c'est une priorité.
Deux semaines après, la situation reste la même dans les trois communes urbaines. Les conseils municipaux de Kadutu, Bagira et Ibanda ne sont toujours pas installés. Pour décanter la situation, la société civile envisage des actions afin que le Sud Kivu fonctionne au même rythme que d'autres provinces. Emmanuel Elamejo Kabedi, Bukavu Radio Kapi.
L'actualité en plus bref, c'est aussi la journée sans taxi ce lundi à Mbandaka. Les motocyclistes qui ont entamé une grève s'insurgent contre la perception simultanée de trois taxes de circulation, taxes perçues par le gouvernorat, la mairie et la commune. Ces taximens dénoncent aussi des amendes exorbitantes de la police de circulation routière. Conséquence, les activités socio-économiques tournent au ralenti aujourd'hui. Retournons au Nord Kivu, certains habitants de la ville de Beni n'ont pas accès à l'eau potable de la régie des eaux depuis 4 jours maintenant. Ils se servent de puits et des sources aménagées dans la zone. C'est suite aux travaux de la modernisation de la voirie, des travaux qui ont été entamés par l'entreprise de construction Viumbira et des pannes survenues à l'usine de traitement d'eau de Toua. Reportage à Beni d'André Kitenge.
Ce sont les habitants des quartiers Malépé dans la commune de Béou, le quartier résidentiel dans la commune de Bungulu et Matongé dans la commune de Moulekera qui n'ont pas accès à l'eau potable. Des tuyaux d'eau de la régie des eaux sont coupés dans plusieurs endroits de ces quartiers, affectant le réseau de distribution d'eau de la régie des eaux. Conséquence, tôt le matin, des hommes, femmes et enfants avec des récipients en main parcourent la ville à la recherche d'eau potable. Cette femme, gardée malade dans un hôpital du quartier rencontré ce lundi matin, explique ce calvaire.
Nous venons de la Fomeka où nous avons des malades à l'hôpital et voilà que nous manquons de l'eau. Les tuyaux d'eau ont été coupés pendant les travaux et pourtant l'eau jaillissait très bien.
Cet habitant qui vient du quartier résidentiel dans la commune de Bungulu explique que l'eau ne coule pas au robinet dans son quartier depuis un mois.
Moi je vis dans les quartiers résidentiels et c'est depuis un mois qu'on n'a pas d'eau. Alors dans ces cas, on est obligé chaque matin de venir dans d'autres quartiers, d'autres avenues pour chercher de l'eau parce que chez nous la situation est devenue grave.
Contacté, Jules Méni, le chef de centre de la régie des eaux Béni, évoque plusieurs raisons qui sont à la base de cette situation. Il s'agit notamment de la panne survenue sur deux des groupes électrogènes et enfin, l'endommagement de plusieurs tuyaux d'eau par la société des services Viumbira qui exécute les travaux de modernisation de la voirie urbaine à Béni. André Kitenge, Béni Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Nigeria, face à l'augmentation du coût de la vie actuelle, de nombreux habitants du nord du pays se tournent vers les grains de riz que les meuniers rejettent normalement après transformation ou qu'ils vendent littéralement aux agriculteurs pour nourrir leurs poissons. Dans la langue Haoussa, largement parlée dans la zone, ces grains sont appelés afafata, ce qui signifie bataille car il est difficile de les cuisiner à la maison et de les manger tant ils sont très durs. dur. Et puis le comité international de la Croix-Rouge, CICR, a annoncé ce lundi après-midi l'intention d'étendre de faire la lumière sur le sort de 23 000 personnes qui sont disparues lors du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Dans un communiqué publié aujourd'hui, le bureau de l'Agence centrale de recherche du CICR pour les conflits armés internationaux entre les deux pays confirme l'intention de rechercher au plus vite des personnes disparues ou capturées, tuées ou séparées de leurs familles à la suite de ces combats.
L'invité.
Notre invité, c'est le député national Jacques Djoli. Ce professeur de droit constitutionnel revient sur les organes délibérants sous état de siège au Nord Kivu et en Ituri et qui ne se sont toujours pas réunis jusqu'aujourd'hui après la publication des résultats de provincial, alors que d'autres provinces du pays préparent d'ores et déjà les élections des gouverneurs et des sénateurs. Il est interrogé par Michel Kifindangoy.
Professeur Jacques Djoli, bonjour.
Bonjour, monsieur Michel Kifindangoy.
Après publication des résultats provisoires des élections provinciales, les assemblées provinciales sous état de siège ne sont toujours pas réunies. N'est-ce pas une violation flagrante des dispositions de l'article 15 de la loi sur la libre administration des provinces qui stipule que l'assemblée provinciale s'est réunie de plein droit en session extraordinaire 15 jours après publication des résultats provisoires?
Je crois que le message du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, aux responsables politico-administratifs de la province du Nord Kivu est clair. Il a été dit que comme les territoires de Masisi et Rutshuru et une partie de Nirangongo n'ont pas pu élire leurs députés provinciaux, il n'était pas opportun que les députés puissent se retrouver en session extraordinaire pour valider leur mandat. Ça, c'est un argument d'opportunité. Mais il y a aussi le fait que cette province est actuellement dans une situation d'état de siège. Et ce n'est pas la première fois. Je crois que lorsqu'il y avait la situation d'état d'urgence sanitaire, la province du Nord Kivu a dû attendre les élus des Lubero et je crois du territoire de Beni pour, n'est-ce pas, se réunir et constituer leur bureau.
Est-ce qu'un état de siège décrété sous une législature passée devrait continuer à produire des effets alors que le Parlement, habilité à le proroger, n'existe plus et le gouvernement ayant bénéficié de cette habilitation pendant les vacances parlementaires est aussi démissionnaire?
Oui, en droit, l'état de siège est proclamé sur pied de l'article 85 par le président de la République, et l'état de siège peut prendre fin lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat, par une loi, décident. L'État ne meurt jamais, la continuité, et ils sont en train d'assurer les affaires courantes. Et cette question d'urgence ou de siège, c'est une question fondamentale dans la survie de la nation.
Qu'adviendra-t-il alors pour les élections des sénateurs dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu si les assemblées provinciales ne savent pas se réunir?
Mais je crois qu'il y a eu prolongation, mais dans tous les cas, tant que nous sommes dans l'état de siège, il n'y aura pas convocation de l'assemblée provinciale par les directeurs administratifs. Il n'y aura donc pas bureau d'âge, il n'y aura donc pas installation du bureau définitif, donc il n'y aura pas élection de sénateurs ou de gouverneurs. C'est assez dommage, compte tenu de l'impératif et la fonctionnalité de ces deux provinces, mais dura lex sed lex. Nous espérons que très rapidement, nous allons sortir de cette situation exceptionnelle.
Et pourquoi avoir organisé les élections dans ces deux provinces si les pouvoirs des élus provinciaux ne seront pas validés comme partout ailleurs?
Je crois que c'est une situation provisoire. Le chef de l'État est sur tous les fronts, militaires, diplomatiques. Et nous, Congolais, nous avons besoin que nous puissions retrouver l'intégrité de notre territoire. Nous avons aujourd'hui plus de 6 millions de personnes qui sont en errance. Oui, les élections ont été organisées, à Ituri notamment, sur l'ensemble du territoire. Mais dans le Nord Kivu, on n'a pas organisé les élections sur l'ensemble du territoire. Et il est important qu'on puisse prendre toutes les dispositions pour retrouver la normalité institutionnelle.
Ne trouvez-vous pas que l'état de siège, qui est une situation d'exception et ne devrait pas durer trop longtemps, devient aujourd'hui une mesure discriminatoire pour les deux provinces qui se voient désormais être privées des représentants au sein des institutions nationales, dont le Sénat?
Je suis tout à fait d'accord avec vous, dans la mesure où l'unité de la République exige que toutes les provinces, mieux toute la population congolaise soit bien représentée au niveau national, mais que surtout au niveau provincial, que les institutions fonctionnent de manière régulière. Mais nous sommes dans une situation exceptionnelle, donc la situation est très grave et les analyses politiques ou politiciennes ne doivent pas nous préoccuper. Ce qui doit nous préoccuper aujourd'hui, c'est comment restaurer l'intégrité du territoire de la République. C'est vrai qu'en Ituri, il y a eu une évolution positive de la situation. On a pu organiser des élections sur l'ensemble du territoire de la province. Mais il ne faut pas oublier que l'état de siège, c'est d'abord une réponse juridique et que la sortie doit se faire aussi de manière juridique, pour ne pas dire constitutionnelle.
Professeur Jacques Joly, je vous remercie.
Merci, monsieur Michel Kifindango.
C'était l'invité de Radio Okapi ce soir, le député national Jacques Joly. Ce professeur de droit constitutionnel a été interrogé ici à Kinshasa par Michel Kifindango. Et c'est la fin de cette édition d'information sur Radio Okapi. Merci d'avoir écouté. À Kinshasa, il est 18h20.